Radio Kapi. Oh, Kapi.
Après la publication du gouvernement, le Premier ministre est passé à une autre étape importante. C'est celle du dépôt officiel du programme d'action du gouvernement de l'Union sacrée de la Nation. Voilà qui ouvre cette édition vespérale sur Radio Kapi. L'actualité en ce mardi soir, c'est aussi cette paralysie des activités au centre-ville de Bounia. C'est sur demande de la société civile qui a demandé à une manifestation pour décrier la dégradation de la situation sécuritaire. Et en réponse à cette situation de Bounia et de l'Ituri, vous suivez en fin de cette édition Jean Bamanissa, gouverneur déchu de la province de l'Ituri. Il est notre invité, il lance un appel à la population par rapport à cette situation. Choisir Radio Okapi pour s'informer, c'est choisir la voie de l'information la plus fiable de la RDC. Mesdames et messieurs, bienvenue, bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, sachez que le président kenyan Uhuru Kenyatta est arrivé ce mardi à Kinshasa. Il a été reçu à sa descente d'avion par le président Félix-Antoine Tshisekedi, président en exercice de l'Union africaine. Les deux chefs d'État ne se sont pas exprimés devant la presse. Par ailleurs, plusieurs analystes affirment que le ballet diplomatique auquel on assiste ces derniers temps en RDC se justifie par le rôle que joue le président Félix Tshisekedi qui assure une année de la présidence de l'Union africaine. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a déposé ce mardi au bureau de l'Assemblée nationale le programme d'action du gouvernement, accompagné des quatre vice-premiers ministres, à savoir Asselo Okito, Christophe Lutundula, F. Bazaïba et Jean-Pierre Liaou. Le chef du gouvernement a été reçu par le président de la Chambre basse, Christophe Mboso Kodia. S'adressant à la presse à la sortie de cette audience, le Premier ministre souligne que son programme a tenu compte de tous les aspects de la vie nationale, mais sa primeur est réservée aux élus du peuple. Jean-Michel Samalou Kondé au micro de Michel Kifindangoy.
Nous sommes venus nous acquitter d'un devoir traditionnel, comme tout le monde l'a suivi, après la publication du gouvernement. Ici, c'est une autre étape importante, celle du dépôt officiel du programme d'action du gouvernement de l'Union sacrée de la Nation. Nous avons été bien reçus par le président de l'Assemblée nationale et nous avons dit que nous restons à sa disposition pour que l'équipe gouvernementale puisse venir se présenter à l'Assemblée selon le calendrier qui sera fixé, de sorte que nous puissions présenter officiellement le contenu de ce programme du gouvernement qui va être fait à la primeur des honorables députés et à travers eux toute la nation. Nous attendons le moment venu de revenir et nous mettre finalement au travail pour répondre aux besoins de la nation et de la République. Nous avons tenu compte de tous les aspects de la vie nationale de la République démocratique du Congo.
Notez que conformément au règlement intérieur de l'Assemblée nationale, ce programme d'action du gouvernement, une fois déposé, peut être soumis à l'examen au plus tôt 48 heures dès son dépôt. Le professeur Dieudonné Kalouba Dibois a été élu ce mardi président de la Cour constitutionnelle et d'office président du Conseil supérieur de la magistrature, juridiction hautement stratégique sur le plan politique et électoral en RDC. Elle a fonctionné depuis près de 10 mois avec un président intérimaire, le juge président Benoît Luamba ayant démissionné. Les audiences consacrées aux plaidoiries dans l'affaire qui oppose l'Ouganda à la RDC quant à la réparation que doit Kampala à Kinshasa ont démarré ce mardi matin. Elles se déroulent au palais de la paix à La Haye, siège de la Cour internationale des justices sous la présidence du juge Yohann Danog, présidente de la Cour. Les audiences publiques par liaison vidéo iront du 20 au 30 avril 2021. La partie RDC a été première à prendre la parole après les propos liminaires de la juge présidente Yohann Danog qui donne dans cet extrait le déroulé des audiences.
Les audiences comprendront un premier et un second tour de plaidoirie. Après le premier tour et avant le second tour, 2 séances sont prévues au cours desquelles les parties pourront poser des questions aux experts. Les juges pourront éventuellement poser des questions complémentaires. Le premier tour de plaidoirie débute aujourd'hui avec l'exposé oral de la République démocratique du Congo et se terminera le jeudi 22 avril 2021. Après l'exposé oral de l'Ouganda. Durant le premier tour, chaque partie disposera d'une séance d'1h30 et d'une séance de 3h. Des questions seront posées aux experts le vendredi 23 avril et le lundi 26 avril. Le second tour de plaidoirie débutera le mercredi 28 avril et se terminera le vendredi 30 avril. Durant le second tour, chaque partie disposera d'une séance de 3 heures pour présenter sa réponse.
À Bounia, toutes les activités sont paralysées au centre-ville depuis ce mardi matin. C'est à la suite du mot d'ordre lancé par la coordination de la société civile de l'Ituri qui a décrété 3 jours de ville morte pour décrier la dégradation de la situation sécuritaire. Cette structure citoyenne déplore les tueries en masse des civils et des éléments des forces de l'ordre dans les territoires de Djougou et Irumou. Ce matin, des jeunes en colère en provenance de Chari ont envahi certaines artères de la ville pour manifester leur mécontentement suite à l'attaque de leur village par des miliciens, ce qui a créé une psychose dans la ville. Martial Kizabiamungu.
Très tôt ce mardi matin, une panique a gagné la population de Bounia. C'était suite à la détonation d'armes attendues vers la partie nord et ouest de la ville, précisément vers la région de Chari, environ 6 km de Bounia, où des combats s'est déroulé entre des miliciens de la Force patriotique intégrationniste du Congo, FPIC, et les FRDC. Vers 7h, heure locale, toutes les activités dans la ville étaient paralysées. Boutiques, magasins, marchés, stations-service et ainsi institutions bancaires étaient fermées. Sur les très fréquentés boulevards de Libération, seules une boutique et une pharmacie étaient ouvertes. Mais l'on pouvait voir par-ci par-là, le long de cette artère principale de la ville, des entroupements des personnes. Cela conformément au mot d'ordre de la société civile qui a décrété depuis ce mardi 3 jours de ville morte à Bounia. C'est pour dénoncer la récrudescence de l'insécurité en Ituri qui dénombre chaque jour des morts. Depuis les centre-ville de Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Restons dans la même province pour dire que 25 personnes ont été tuées dans une double attaque lundi et mardi par des hommes armés en territoire des Djougou et Irumou. Tôt le lundi matin, les miliciens de la Force patriotique et intégrationniste du Congo FPIC ont fait incursion au village de Niara à la périphérie de Bounia. Selon le porte-parole des FRDC à Ituri, le bilan est de 12 morts dont 7 assaillants et 5 civils. On déplore également plusieurs maisons incendiées. Cette attaque a provoqué le déplacement de la population dans les localités et quartiers proches de l'aéroport port de Bounia qui afflue depuis ce mardi matin au chef-lieu de la province. À Djougou, pendant ce temps, les combats entre le groupe autodéfense Zaïre et les FRDC ont fait 13 morts au village de Loda dans la chefferie de Mabendi. Selon des sources concordantes, la MONUSCO et les FRDC ont repoussé ces miliciens de la FPIC. Restons dans la même région. Le gouverneur déchu de la province de l'Ituri, Jean-Bamecha Saïdi, s'insurge contre toute manifestation qui vise à perturber les activités dans la ville de Bounia. Il a dit ce mardi dans une interview accordée à Radio Okapi. Jean-Bamecha réagissait ainsi aux journées ville morte décrétées par les forces vives de la société civile de l'Ituri. Il appelle la cohésion et invite la population à ne pas jouer le jeu de l'ennemi qui risque de profiter de cette situation pour déstabiliser davantage le chef-lieu de la province. Jean-Bamecha Saïdi est au micro de Martial Kizabiamungu.
Nous avons d'interdire toutes ces manifestations. D'autorité, nous les interdisons et nous disons que ce sont des instruments de la déstabilisation. Ce sont des instruments qui sont utilisés par les ennemis pour mettre le chaos dans l'Ituri et que les gens de bonne conscience doivent écarter cela et ne pas adhérer à ces manifestations, des révolutions, des rébellions qui sont en train de se mettre en place. Le message de la population de l'Ituri, c'est de faire en sorte que nous puissions tous savoir que l'ennemi est à nos portes, l'ennemi est dedans, dans la maison déjà, et que tout doit être fait pour ne pas succomber à ces tentatives et de rester prudent, parce qu'aujourd'hui l'ennemi tue, l'ennemi détruit, la RN27, elle est coupée. Ce sont des actions qui étaient faites. La route de Mongoual ou dangereuse, la route du sud vers Komanda difficile, attaquée. Restons sereins et consolidons-nous.
Thomas Lubanga, président de l'Union des Patriotes Congolais UPC, recommande au gouvernement d'envisager une opération Artemis avec la communauté internationale pour mettre fin au massacre de l'Ituri. Dans une conférence de presse qu'il a animée ce mardi à Kinshasa, le président de l'UPC pense que l'État congolais a perdu ses attributs régaliens. On ne peut pas comprendre que depuis 2007, la situation sécuritaire en Ituri empire sans que le gouvernement n'intervienne pour protéger la population, s'indigne Thomas Lubanga. Il est au micro de Jeff Ngoy.
La situation qui prévaut en Ituri relève de la responsabilité de l'État. Et parmi les éléments constitutif de l'État, il y a la population, il y a aussi l'espace géographique. Et ce sont ces éléments qui sont menacés en Ituri. Et pour qu'un chef de l'État mérite son appellation de chef de l'État, il devait faire à ce que ces éléments soient recousus pour que l'État puisse avoir sa forme. Avec nos frères de l'Ituri, le drame qui est tout simplement inacceptable et auquel ceux-là qui ont le pouvoir ont le devoir de répondre. Alors personne, ni au niveau de notre pays, ni au niveau de la communauté internationale, ne peut prétendre ne pas comprendre ce qui se passe en Ituri. Et ces massacres ont pris de l'ampleur depuis 2017. Le gouvernement congolais est là. On pouvait envisager une opération Artemis.
L'actualité nous amène au Nord Kivu où les activités scolaires ont du mal à reprendre en ville de Butembo. Ce mardi, en dépit des appels des autorités locales pour la reprise normale des activités, nombreuses écoles étaient quasiment vides. Les grandes maisons de commerce n'ont toujours pas ouvert. Par contre, dans la commune rurale de Lubero, les cours ont repris. À Beni, les activités ont repris timidement ce mardi 20 avril dans la ville de Beni après deux semaines des villes mortes décidées par certains groupes de pression et mouvements citoyens. Les quelques barricades érigées lundi par les manifestants ne sont plus visibles dans certains quartiers chauds de la ville où la police patrouille. Ouverture ce mardi 20 avril ici à Kinshasa de la conférence internationale sur la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAF par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. En marge de ces assises se tient également la 12e assemblée de l'Union des conseils des chargeurs africains. Pour Félix-Antoine Tshisekedi, cette rencontre constitue un cadre idéal afin d'examiner les défis auxquels fait face la ZLECAF. Félix-Antoine Tshisekedi dans cet extrait recueilli par Paul Matendo.
Dans votre tâche quotidienne de lutte que vous menez pour la suppression des barrières commerciales et la facilitation de la fluidité du fret, vous êtes mieux outillés et mieux placés pour garantir la réussite de cette approche stratégique pour le développement économique que constitue la ZLECAF. Pour vous faciliter l'accomplissement satisfaisant des missions qui vous ont été confiées par les États, vous devriez avoir conscience des défis sécuritaires, politiques et économiques qui peuvent entraver l'effectivité de la ZLECAF. Les assises de cette conférence internationale constituent un cadre bien indiqué permettant d'émettre des pistes de solutions aux nombreux défis auxquels la ZLECAF est confrontée. J'ai foi que la coordination entre les actions des chargeurs et celles du secrétaire général de la ZLECAF permettront la réalisation des conditions optimales de l'intégration économique africaine.
Actualité internationale.
Règne, le président tchadien est décédé après avoir été blessé lors des combats contre le Front pour l'Alternance et la Concorde au Tchad. Il était connu de tous comme le président de la République tchadienne, le chef suprême des armées. Ce mardi, le maréchal Idriss Déby Itno est décédé des suites de ses blessures après des combats contre les rebelles du Front pour l'Alternance et la Concorde au Tchad dans le nord du pays. Seulement quelques heures avant l'annonce de son décès à la télévision nationale, la commission électorale le donnait vainqueur dans les élections présidentielles. 79,32% dès le premier tour, Idriss Déby Itno aurait entamé son sixième mandat à la tête du Tchad.
L'invité.
Notre invité, c'est le gouverneur déchu de la province de l'Ituri. Jean Bamanis a lancé un appel à la population par rapport à la situation sécuritaire qui se détériore dans cette province. Il s'entretient avec Martial Kizabiamungu.
Jean Bamanis Saïdi, bonjour.
Bonjour, monsieur Martial.
Depuis la chute de votre gouvernement par une motion de censure votée par la majorité des députés provinciaux, nous constatons une montée en flèche des violences à l'Ituri. Les centres de Nyakoundé est occupé, cela fait deux jours, par les miliciens de la FPIC. Très tôt matin de ce mardi, c'est le village de Chiari, à quelques kilomètres de la ville, qui était attaqué par la même milice. Qu'est-ce qui explique cette situation?
Écoutez, c'est le cheminement d'un processus que les ennemis de la paix ont entamé depuis plusieurs temps, plusieurs années. Et leur stratégie, on vous l'a toujours dit, c'était celui d'asphyxier la ville par la création et les attaques au travers différents groupes armés qui devaient avoir des connotations territoriales et même communautaires. Ça, c'était leur ambition, et vous comprendrez un jour pourquoi est-ce que nous avons toujours dit qu'il fallait résister avec une unité des Ituriens parce que il y a un plan qui est celui d'abord de briser la confiance des citoyens, de toucher les chefs locaux, de toucher les chefs de l'administration, de toucher l'armée, de toucher la police, de toucher tout ce qui est structure de l'État et le gouvernement aussi provincial. Et plus loin, il y a, vous entendez le discours de certains, c'est même de toucher l'État congolais, parce qu'ils se disent qu'ils peuvent faire partir toutes les représentations de l'État à travers ce que je vous ai dit et eux occuper la province. Donc c'est une guerre qui passe par l'intoxication, le recrutement dans nos villages et c'est destiné à saper vraiment l'autorité de l'État. Nous en sommes victimes tous, comme j'ai dit, l'État c'est l'ensemble avec tous les citoyens jusqu'au niveau du sommet, du gouverneur et du chef de l'État au niveau national. Cela peut-être a été aidé encore par cette motion, parce que quand on fait partir un maillon dans la chaîne, vous voyez qu'on touche plus facilement. Si on fait partir un athée comme à Irumu, quand on veut faire partir un gouverneur, en fait, ce sont des actions pour saper et le système de défense et l'autorité de l'État pour ensuite fragiliser. Et donc la motion a été, pour moi, et pour beaucoup d'Ituriens, un produit utilisé par les ennemis de la paix pour justement saper l'unité de l'autorité de l'État.
Alors, monsieur le gouverneur de Chi, à qui revient la responsabilité sur les dossiers de l'insécurité dans la province de l'Ituri?
Vous savez que même le ministre de la Défense n'est pas au courant des détails des opérations militaires, de nombre de personnes, de nombre de véhicules, des moyens, des stratégies. Le chef de l'État donne des instructions, le ministre de la Défense en est informé, l'armée, dans toutes les armées du monde, ont leur stratégie. Nous ici, le fait de coordonner le comité de sécurité ne fait pas de nous un général de l'armée, ni un commandant. Donc nous appuyons ce que nous pouvons faire, nous recevons le rapport, nous transmettons aussi les rapports et les instructions de la hiérarchie quand il se doit, mais l'armée fait son travail, la police fait son travail.
Vous avez promis de déposer votre démission devant le chef de l'État. Est-ce que vous l'avez déjà fait?
Mais écoutez, je vais faire le rapport. Je ne sais pas si ça vous excite autant de voir le gouverneur démissionner, mais mon problème, c'est surtout de savoir dans le maillon de l'autorité, lorsque le gouverneur n'est pas là, quand est-ce qu'il y a un nouveau qui arrive? Pourquoi vous voulez laisser l'Ituri abandonné sans le maillon de l'autorité de l'État qui est le gouvernement provincial?
Jean Bamanissa Saïdi, merci.
C'est moi qui vous remercie.
C'est la fin de cette édition du journal préparée par Pelé Kipela Mondo, Alain Irung, Noéla Luzito. Au nom de toute cette équipe, nous vous disons sincèrement merci.